C'est ainsi qu'ils étaient devenus amis, des compagnons de boisson qui s'entendaient bien. Ils restèrent en contact, se virent régulièrement et écumèrent divers établissements de Tokyo. Ils bavardaient de choses et d'autres sans dessein particulier. Jamais ils ne partagèrent de repas. Ils n'allaient ensemble que dans des bars. Pas une seule fois, Kafuku ne vit Akatsuki absorber d'autres nourritures solides que les petits amuse-gueules servis avec les boissons, ce qui lui fit supposer que l'homme ne prenait pas de véritables repas. Et en dehors d'une bière à l'occasion, il commandait toujours des whisky. Il aimait les single malt. Leur conversation portait sur des sujets divers, mais à un moment donné, invariablement, ils se remettaient à évoquer l'épouse disparue de Kafuku. Quand ce dernier racontait des épisodes de sa jeunesse, Takatsuki était tout oreille, le visage grave, comme quelqu'un qui recueille et organise les souvenirs d'un tiers. Kafuku ne s'en préoccupait pas, car il prenait lui-même plaisir à ce type de conversation. Ce soir-là, il s'était retrouvé dans un petit bar d'Aoyama, un établissement sans prétention situé au bout d'une ruelle à l'arrière du musée Nezu. Le barman était un homme d'une quarantaine d'années, plutôt taciturne, et un chat gris maigre dormait roulé en boule au coin d'une étagère ornementale. Un chat de gouttière, sans doute, qui s'était trouvé un foyer. Des disques de vieux jazz tournaient sur la platine. Les deux hommes aimaient l'atmosphère du lieu, et ils étaient venus là bien des fois déjà. Pour une raison mystérieuse, il pleuvait à presque chacune de leurs visites, et ce jour-là également, une pluie fine s'était mise à tomber. Vraiment, c'était une femme extraordinaire, dit Takatsuki en regardant ses mains posées sur la table. De belles mains pour un homme d'un certain âge déjà. Aucune ride marquée et des ongles très soignés. Vous avez dû être heureux d'être avec quelqu'un comme elle, de vivre avec elle, n'est-ce pas ?
Oui, en effet, répondit Kafuku. J'ai sans doute été heureux, comme vous dites. Mais mon bonheur allait de pair avec de la douleur.
Que voulez-vous dire par là ? Kafuku leva son verre et fit tourner les gros glaçons qui s'y trouvaient. Je savais que je pouvais la perdre un jour. À cette seule pensée, j'en étais oppressé. Je comprends parfaitement ce sentiment, dit Takatsuki.
Hein ?
Et comment cela ? Eh bien... Takatsuki cherchait les mots justes. Je veux dire que l'on redoute de perdre quelqu'un d'aussi merveilleux qu'elle. Vous parlez de manière générale ?
Oui,
répondit Takatsuki qui hocha la tête à plusieurs reprises, comme pour se convaincre lui-même. C'est seulement quelque chose que j'imagine, rien d'autre. Kafuku resta sans rien dire un moment, faisant durer le silence autant qu'il le pouvait. Puis il reprit la parole. Pourtant, je l'ai perdue. Elle avait été vivante et voilà que petit à petit, elle s'en allait, jusqu'à finir par disparaître totalement. C'était comme si elle avait subi une érosion progressive et que, à la fin, elle avait été arrachée, depuis la racine, par une vague gigantesque et emportée. Vous comprenez ce que je vous dis là ?
Oui, tout à fait.
Non, tu n'as aucune idée de ce dont je te parle. Pensa Kafuku. Ce qui est le plus dur pour moi, continua-t-il, c'est qu'il y avait chez elle une part, certainement une part importante, que je n'avais jamais vraiment comprise. Et à présent qu'elle est morte, cela restera éternellement incompris, comme un petit coffre-fort immergé au fond de l'océan. Quand j'y pense, je me sens la poitrine douloureusement contractée. Takatsuki réfléchit un instant, puis il dit « Croyez-vous cependant que l'on puisse comprendre quelqu'un dans sa totalité, même s'il s'agit de quelqu'un que l'on aime profondément ?» Kafuku répondit « Avec ma femme, nous avons vécu côte à côte près de 20 ans, et tout en ayant des liens conjugaux très étroits, nous étions aussi, je pense, des amis de confiance. Nous pouvions parler ensemble de tout. Du moins, c'est ce que je croyais. » Mais peut-être que tout cela n'était pas vrai. Comment dire ? Ce n'est pas impossible qu'il y eût chez moi un point aveugle et fatal.
Un point aveugle, répéta Takatsuki. Je n'ai peut-être pas perçu en elle quelque chose d'important, non. En fait, même si c'était visible, j'étais incapable de voir ce que cela signifiait réellement. Takatsuki resta un instant à se mordre les lèvres. Puis il finit son verre et fit signe au barman de le resservir. « Je comprends ce sentiment, » dit-il enfin. Kafuku regarda Takatsuki fixement, droit dans les yeux. Ce dernier soutint un instant son regard avant de détourner les yeux. « Vous comprenez, dites-vous ? » « Dans quel sens ?» demanda Kafuku d'une voix posée. Le barman s'approcha avec un whisky et plaça devant Takatsuki un nouveau dessous de verre. Les deux hommes restèrent silencieux en sa présence. « Vous comprenez ?»« Dans quel sens ?» répéta Kafuku une fois le barman parti. Takatsuki se perdit dans ses pensées. Il y eut comme un faible vacillement dans ses yeux. Kafuku supposa qu'il hésitait, qu'il était aux prises avec un besoin pressant de se livrer. Finalement, il réfréna sa pulsion et déclara « Nous, les hommes, nous ne savons jamais vraiment ce que pensent les femmes, vous ne croyez pas ? Voilà tout ce que je voulais dire. Et c'est valable pour n'importe quelle femme. Je pense donc que vous n'êtes pas le seul à avoir un point aveugle. Et si point aveugle il y a vraiment, alors nous devons tous vivre avec. Il ne faut pas être aussi dur avec vous-même. » Kafuku médita ces paroles quelques instants. « Il s'agit là encore d'une généralité ? » demanda-t-il enfin. Takatsuki admit que oui, bien entendu. « Mais moi, à présent, c'est de ma femme morte que je parle. Aussi j'aimerais que vous ne transformiez pas mes confidences en généralité banale. » Durant un assez long moment, Takatsuki garda le silence. « À ce que je sais, » finit-il par dire, « votre épouse était vraiment une femme merveilleuse. Il va de soi que je ne connais d'elle sans doute que le centième de ce que vous, vous en connaissez, mais j'en suis quand même persuadé. Quoi qu'il en soit, vous devez vous sentir reconnaissant d'avoir vécu presque 20 ans auprès d'une femme comme elle. Je le crois profondément. Néanmoins, vous aurez beau penser que vous avez compris quelqu'un, que vous l'avez aimé, il n'en reste pas moins impossible de voir au plus profond de son cœur. Vous aurez pu vous y efforcer, mais vous n'aurez réussi qu'à vous faire du mal. Vous ne pouvez voir qu'au fond de votre propre cœur, et encore seulement si vous le voulez vraiment, si vous faites l'effort d'y parvenir. En fin de compte, notre seule prérogative est d'arriver à nous mettre d'accord avec nous-mêmes, honnêtement, intelligemment. Si nous voulons vraiment voir l'autre, nous n'avons d'autre moyen que de plonger en nous-mêmes. Telle est ma conviction. » C'était comme si ces paroles avaient émergé d'un lieu particulier, situé en profondeur, depuis l'intérieur de l'individu nommé Takatsuki. Pendant à peine un bref instant, une porte secrète s'était entrouverte. Ces mots venaient de l'âme, sans phare. En tout cas, il était manifeste qu'il ne jouait pas. Il n'en aurait d'ailleurs pas été capable. Kafuku ne dit rien, plongea son regard dans le sien. Cette fois, Takatsuki ne détourna pas les yeux. Les deux hommes restèrent ainsi un long moment, les yeux dans les yeux, discernant chez l'un et l'autre comme les clignotements d'une étoile lointaine. Ils se serrèrent de nouveau la main lorsqu'ils se séparèrent. À l'extérieur tombait une pluie fine. Une fois que Takatsuki, vêtu d'un imperméable beige, sans parapluie, eut disparu à travers la pluie, Kafuku observa la paume de sa main droite, comme les autres fois. Et il songea, sa main caressait le corps nu de ma femme. Pourtant, malgré cette pensée, il ne ressentit pas ce jour-là de sentiment d'oppression. « Ce sont des choses qui arrivent, » se dit-il seulement. « Oui, sûrement des choses qui arrivent. » Et puis, pensa-t-il encore, ce n'était que son corps. Après tout, n'est-il pas devenu aujourd'hui cendre et eau ? Il y a des choses bien plus importantes. Si point aveugle il y a vraiment, alors nous devons tous vivre avec. Les mots de Takatsuki continuaient à résonner aux oreilles de Kafuku.
Êtes-vous resté longtemps ami avec cet homme ?
Demanda Misaki tout en fixant du regard la file de voitures devant eux.
Environ 6 mois. On se retrouvait à peu près 2 fois par mois dans des bars pour boire ensemble, répondit Kafuku.
Et puis on a arrêté de se voir. Il a essayé de me joindre par téléphone, mais j'ai ignoré ses appels. Je ne l'ai plus jamais contacté. Et de son côté, il a fini par ne plus m'appeler.
Il a dû penser que c'était bizarre.
Sans doute.
Il a peut-être été blessé.
Oui, peut-être.
Pourquoi avez-vous brusquement cessé de le voir ?
Je n'avais plus besoin de jouer la comédie.
Alors, parce que vous n'aviez plus besoin de jouer, vous n'aviez plus besoin non plus d'être ami avec lui, c'est cela ?
Oui, aussi, reconnut Kafuku.
Mais il y avait une autre raison.
Qui était ?
Kafuku resta silencieux un long moment. Sa cigarette non allumée aux lèvres, Misaki lui jetait des regards de côté.
Si vous avez envie de fumer, allez-y, lui dit Kafuku.
Pardon ? Allumez votre cigarette ?
Ça m'est égal.
Mais la capote est fermée ?
Ça ne fait rien.
Misaki abaissa la vitre de sa fenêtre et alluma sa Marlboro avec l'allume-cigare de la voiture. Puis elle inhala une grosse bouffée, plissa les yeux de plaisir. Elle garda la fumée un instant dans les poumons avant de l'exhaler lentement.
« Vous savez, cela peut être fatal, » dit Kafuku.
« Si l'on va par là, vivre aussi peut être fatal, » répondit Misaki. Kafuku sourit.
« Une façon de voir les choses ?»«
C'est la première fois que je vous vois sourire, » remarqua Misaki.
Maintenant qu'elle l'avait dit, en effet, c'était sans doute vrai, songea Kafuku. Cela faisait bien longtemps qu'il n'avait pas souri, à part quand il jouait un rôle.
J'avais l'intention de vous le dire depuis un moment déjà, commença Kafuku. Si l'on vous regarde bien, en fait vous êtes très jolie. En tout cas absolument pas moche. Je vous remercie.
Moi non plus, je ne me trouve pas moche.
Simplement, je ne suis pas du genre séduisant, comme Sonia. Un peu surpris, Kafuku regarda Misaki.
Vous avez lu Oncle Vanya ?
Chaque jour, vous n'avez cessé de m'en faire entendre des tirades et à très haute voix, alors j'ai eu envie d'en savoir un peu plus sur cette histoire.
Moi aussi je suis curieuse, voyez-vous, répondit Misaki.
Ah, quel malheur de ne pas être séduisante. Pourquoi suis-je née ainsi, aussi peu charmante ? Pourquoi ce destin ? C'est une pièce plutôt triste.
Une histoire désespérée, fit Kafuku.
Ah, quel malheur. J'ai déjà 47 ans. Il se peut que je vive jusqu'à 60, une éternité. Comment pourrais-je supporter de vivre ainsi encore 13 années? Que ferais-je? Comment les occuperais-je chaque jour?
À cette époque, les gens mouraient généralement vers 60 ans. Oncle Vanya a peut-être eu de la chance de ne pas vivre aujourd'hui.
J'ai fait quelques recherches et j'ai vu que vous aviez le même âge que mon père.
Kafuku ne répondit pas à cette dernière remarque. Il fouilla parmi les cassettes pour essayer de retrouver l'enregistrement d'une chanson. Mais il n'en mit aucune dans le lecteur.
Misaki tenait sa cigarette allumée dans la main gauche, qu'elle laissait à l'extérieur de la fenêtre. Les voitures s'étant remises à avancer, elle coinça de nouveau sa cigarette entre ses lèvres pour pouvoir utiliser les deux mains lorsqu'elle changeait de vitesse. À vrai dire, j'avais envie de punir cet homme, d'une façon ou d'une autre, déclara Kafuku, un peu comme s'il lui faisait un aveu. Ce type qui avait fait l'amour avec ma femme. Il remit alors les cassettes à leur place.
Le punir ?
Oui, je voulais le faire souffrir. Mon idée était de feindre d'être ami avec lui afin de bien l'endormir, puis de découvrir où se situait son point faible. Sa part la plus vulnérable. Et de m'en servir le plus adroitement possible pour le blesser. Misaki fronça les sourcils, réfléchissant au sens de cet aveu. Son point faible. Et alors qu'est-ce que c'était ?
Eh bien en fait, je ne l'ai pas découvert. Lorsqu'il avait bu, pourtant, il était du genre à baisser la garde. Je pouvais donc m'attendre à trouver quelque chose. Ça n'aurait pas été tellement difficile de déclencher un scandale, de provoquer un problème qui ruinerait sa réputation. Dans ce cas, au cours de l'arbitrage du divorce, la garde de son enfant aurait pu lui être refusée, et il aurait eu énormément de mal à le supporter. Peut-être même qu'il ne s'en serait pas remis. C'est horrible. Oui, horrible. En somme, vous vouliez vous venger parce que cet homme avait eu une liaison avec votre femme ?
Ce n'était pas exactement une vengeance, répondit Kafuku. J'avais beau faire, je n'arrivais pas à oublier ce qui s'était passé. J'ai essayé vraiment, mais je n'oubliais pas. Impossible de m'enlever de la tête les images de ma femme dans les bras d'un autre. Elle revenait toujours me hanter, comme un esprit errant qui demeurait accroché dans un coin du plafond et m'observait sans relâche. Je me suis dit que ce sentiment disparaîtrait une fois que le temps aurait passé après sa mort, mais non, rien n'a disparu. Au contraire, c'est devenu plus fort. Il fallait que je m'en débarrasse. Il fallait que j'enlève de moi ce qui ressemblait à de la colère.
Kafuku se demanda pourquoi il racontait des choses pareilles à cette native de Kamijunitaki, Hokkaido, qui avait l'âge que sa propre fille aurait eu. Mais à présent qu'il avait commencé, il lui était impossible de s'arrêter.
Et vous vouliez donc punir cet homme ?
Oui.
Mais en réalité, vous n'avez rien fait.
Non, en effet, rien, répondit Kafuku.
Misaki parut quelque peu soulagée. Elle tira une petite bouffée de sa cigarette et la jeta encore allumée par la fenêtre. Peut-être qu'à Kamijunitaki, tout le monde agissait de la sorte.
Je ne saurais l'expliquer exactement, mais à un moment donné, tout s'est arrêté d'un seul coup, comme si je m'étais soudain délivré d'une obsession. Je n'éprouvais plus aucune colère. En fait, il ne s'agissait pas vraiment de colère, c'était sans doute autre chose.
Je crois sincèrement que c'est une bonne chose, monsieur Kafuku, que vous n'ayez fait aucun mal à cet homme, d'une façon ou d'une autre.
Oui, je le pense aussi.
Mais en fin de compte, vous n'avez toujours pas compris pourquoi votre femme avait fait l'amour avec cet homme, pourquoi elle devait faire l'amour avec cet homme-là en particulier.
Non, je ne l'ai pas compris. C'est quelque chose qui reste en moi comme une interrogation. C'était un type sans malice, gentil. Il semblait véritablement aimer ma femme. Ce n'était pas juste une question de sexe. Sa disparition lui a causé un vrai choc. Il a été blessé de n'avoir pas été autorisé à lui rendre visite avant sa mort. Je ne pouvais pas m'empêcher d'avoir de la sympathie pour lui, et je crois même que nous aurions pu devenir vraiment amis.
Kafuku arrêta là ses explications, cherchant à remonter au plus près de ses sentiments. Il voulait trouver les mots qui se rapprocheraient au mieux de la réalité.
Si je parle vrai, pourtant, ce n'était pas un type génial. J'imagine qu'il avait un caractère agréable. Il était beau et avait un sourire séduisant. Ce n'était même pas un baratineur, mais pas non plus un homme qui forçait le respect. Il était honnête, mais manquait de profondeur. Il avait des faiblesses. C'était un acteur de seconde zone. En comparaison, ma femme était quelqu'un de bien plus profond, animé d'une volonté forte. Une femme capable de réfléchir sereinement en prenant son temps. Et malgré tout, pourquoi a-t-il fallu qu'elle soit attirée par un type aussi insignifiant ? Aujourd'hui encore, cela me reste comme une épine dans le cœur.
En un sens, vous avez pris ça comme une insulte personnelle, n'est-ce pas ?
Kafuku réfléchit un instant, puis admit que oui, peut-être en effet.
Vous savez, je crois que votre femme n'aimait pas cet homme, déclara franchement Misaki. C'est pour cela qu'elle a couché avec lui.
Kafuku regarda le profil de Misaki, comme s'il contemplait un paysage lointain. La jeune fille activa les essuie-glaces afin de faire disparaître les quelques gouttes qui restaient sur le pare-brise. Les deux balais neufs firent entendre des crissements aigus, comme de petits jumeaux qui manifesteraient leur mécontentement.
N'importe quelle femme pourrait le faire, ajouta-t-elle.
Kafuku demeura sans voix et garda par conséquent le silence.
Cette manière d'agir, vous voyez, c'est comme une maladie,
c'est quelque chose qu'on ne peut vraiment saisir par la pensée. Prenez mon père qui nous a abandonnés ou ma mère qui ne cessait de me faire du mal, eux aussi agissaient sous l'effet de la maladie. Pas la peine d'essayer de comprendre. Il vous faut juste faire avec. Ravalez vos larmes et avancez.
Et nous tous, simplement, continuer à jouer la comédie, dit Kafuku.
Oui, je crois. Plus ou moins.
Kafuku s'enfonça profondément dans le siège en cuir, ferma les yeux et se concentra sur le point suivant. Il essaya de sentir selon quel timing Misaki passait les vitesses. Mais il n'y parvint pas. Ses manœuvres étaient bien trop douces, voire impénétrables. Il pouvait tout juste percevoir à l'oreille les changements de régime du moteur, un peu comme les coups d'aile d'un insecte qui s'approche, puis s'éloigne. Tiens, il est tout prêt, et maintenant il s'en va.
Je vais dormir un peu, songea Kafuku. Faire un vrai somme profond, 10 ou 15 minutes, avant de me réveiller. Et ensuite je monterai sur scène et je jouerai. Les lumières s'allumeront, je réciterai mon texte. Il y aura des applaudissements, le rideau tombera, j'aurai été quelqu'un d'autre, je redeviendrai moi-même. Mais on ne revient jamais exactement à ce que l'on était auparavant.
Je vais dormir un peu, annonça Kafuku.
Misaki ne répondit pas. Elle continua à conduire sans rien dire. De ce silence, Kafuku lui fit reconnaissant.